Parcours d'artiste.
C'est un architecte des matières que Céleste Germe compose ses spectacles. Cofondatrice du collectif Das Plateau, la metteuse en scène crée des univers où les mots, les sons, les images et l'espace scénique nous plongent dans la psyché humaine pour témoigner du monde par le prisme de la perception. Qu'il explore le sujet féminin, les questions de société ou les traumas intimes, son théâtre est habité de souvenirs, de fantômes, de fantasmes et de rêves. Car c'est là que se joue le réel, mais aussi une possible résilience. Elle nous raconte son parcours d'artiste. Bonjour Céleste Germe.
Bonjour.
Le théâtre semble vous intéresser depuis longtemps, puisque c'est un baccalauréat littéraire, mention théâtre, que vous avez passé en 1999. Qu'est-ce qui vous a mené sur le chemin du théâtre, du coup, dès l'adolescence ?
Un hasard. J'étais dans un lycée dans le centre de Paris qui s'appelle Victor Hugo et mes copines étaient là pour faire cette option théâtre qui était une option qui comptait, qui était très importante pour passer le bac. Et j'ai suivi mes copines, quoi. Et puis, je me suis retrouvée dans cette petite salle noire du lycée avec une professeure qui s'appelle Marion Ferry, qui nous a mis dans le théâtre, on va dire, qui nous a fait d'abord voir énormément de choses. On allait 3 fois, 4 fois par semaine au théâtre à, jeune, quoi, à 16, 17 ans. Donc, elle nous a appris à regarder. Et puis, à fabriquer dans cette toute petite salle noire, on a tout de suite, par exemple, on a travaillé Salinger de Coltès. Et d'un coup, c'était une rencontre avec l'écriture contemporaine. C'était pas du tout le théâtre tel qu'on peut se le représenter quand on est jeune, c'est-à-dire aussi comme quelque chose peut-être de lointain, qui n'est pas proche, justement, de notre jeunesse. Et d'un coup, pour le coup, Salinger, on peut pas dire que quand on a 16 ans, forcément, on se le prend, quoi. On le prend avec soi. Et ça a été une expérience aussi de groupe. Donc voilà, moi, ça a accompagné mon lycée de manière extrêmement importante et forte, quoi. Ça a fait ces années-là, quoi.
Et là, vous avez attrapé le virus, puisque vous enchaînez avec une licence en art du spectacle à l'Université de Nanterre. À cette époque, vos professeurs s'appellent Jean Jourdeuil, Jean-Louis Besson, Jean-Michel Desprats, David Lescaut, donc des personnalités fortes de la scène théâtrale. Aujourd'hui, comment est-ce que vous décririez ce qui a le plus compté dans ces années d'apprentissage ?
Ce que j'ai pas dit d'ailleurs, c'est que le théâtre, tout de suite, pour moi, ça a pas été forcément que jouer, quoi. Même si en option théâtre, on joue forcément. Mais l'endroit tout de suite où je me suis sentie bien, c'était dans le fait de regarder. Et notamment, Marion Ferry, donc cette professeure, nous faisait faire des dossiers de scéno, des dossiers scénographiques sur les pièces qu'on travaillait. Je passais des nuits entières à travailler ces dossiers, à imaginer des scénographies, mais aussi à les mettre en page. Donc je rendais des dossiers très bien fait, l'objet lui-même était un travail matériel très méticuleux. Et donc je suis arrivée, en effet, j'ai souhaité poursuivre à Nanterre, ce qui était aussi un choix de sortir de Paris, d'aller rencontrer d'autres types de pensées, peut-être plus proches de la philosophie, ce qui me semblait être aussi des endroits plus politiques que le centre de Paris. Et je suis arrivée à Nanterre, en effet, avec une équipe assez extraordinaire, quoi, de professeurs. C'est là que j'ai rencontré Maëlys Ricordo, avec qui on a donc fondé Das Plateau. Et j'avais tous ces professeurs et j'étais très intéressée aussi à la fois, donc je disais, par le regard, donc quand même pas seulement être sur scène, quoi, mais aussi par la théorie. Et donc j'ai un souvenir en effet de ces cours de David Lescaut qui enseignait la théorie du théâtre. Et donc voilà, donc l'histoire et aussi comment la pensée du théâtre dans le temps.
Une pensée qui se fait assez politique, par exemple, avec un Jean Jourdeuil, qui est un des grands penseurs aussi du théâtre politique en France.
Ouais, bien sûr, tout à fait. Et c'est sûr que la question esthétique n'était jamais détachée de la question politique, comme la question formelle n'était jamais détachée du contenu. Donc, ils nous ont montré beaucoup de choses. Et en même temps, je continue à aller beaucoup au théâtre, quoi, à cette époque. Et la formation est beaucoup passée par le fait d'être spectatrice et de voir beaucoup. Parce que voir un peu, c'est bien, mais voir beaucoup, c'est là qu'on commence à mettre en relation les choses, à comprendre le chemin. Je voyais plusieurs pièces des mêmes metteurs en scène, metteuses en scène. On parlait beaucoup. On a beaucoup échangé, on a beaucoup dialogué. on n'aimait pas plein de choses, on aimait passionnément d'autres choses. Et ça était vraiment le ciment, enfin, le ferment d'Asplato, je pense.
Mais avant de vous consacrer corps et âme au théâtre, vous vous engagez dans des études d'architecture, d'abord à l'école d'architecture de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée, donc encore un peu plus loin de Paris. Et puis vous revenez à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. Vous obtenez votre diplôme d'architecte en 2007. L'architecture, c'était continuer la scénographie par d'autres moyens.
Ouais, exactement. J'avais vraiment envie de devenir scénographe, quoi. Enfin, c'est ça que je souhaitais. La question de la mise en scène n'était pas pensée. Et j'avais envie d'une formation à la fois pragmatique, mais intellectuelle. J'avais l'impression qu'il ne fallait pas que je fasse du théâtre, qu'il fallait que je forge des outils que je n'avais pas, pour le coup. Et c'est vrai que l'architecture, j'ai eu l'impression que c'était une discipline qui était très construite aussi, qui pouvait me permettre de penser l'espace et de le fabriquer vraiment ensemble. Et donc, voilà, je me suis lancée là-dedans. On est fait un peu plus loin aussi du centre de Paris. Ça c'était important aussi. Et donc, à Marne-la-Vallée, qui était une école toute récente et une très belle école. Donc, j'ai commencé à travailler, à étudier là-bas. C'était des études très intenses. On travaillait jour et nuit, tout le temps. Je pense que j'ai appris aussi à travailler en architecture. Cette discipline-là, cet amour-là d'aller plus loin, de se dépasser. Puis j'avais toujours ce projet, en fait, je n'ai jamais laissé de côté. L'architecture a toujours été un moyen d'aller vers le théâtre. Ça aurait pu, en fait, mais jamais je me suis dit, ah ben, je vais devenir architecte, à aucun moment.
Et pourtant, vous avez travaillé au tout début sur des projets d'aménagement urbain, sur même la construction de bâtiments publics. Donc, ce pas de côté qui vous permettait de vous doter d'outils que vous pourriez utiliser au théâtre, vous les avez aussi utilisés pour sortir du champ théâtral et peut-être aller explorer les territoires ou explorer ailleurs, en tout cas.
L'architecture, c'est aussi une manière d'ordonnancer le réel, de l'organiser, de penser les relations entre un espace et un autre, leur relation hiérarchique, leur matérialité, l'émotion que ça peut être. Il y a beaucoup de rapports entre l'architecture et le théâtre, je pense. J'étais intéressée fortement, y compris par la dimension sociale. Pendant ces années d'études, j'ai fait les choses complètement et c'était pas mal aussi d'ailleurs d'arriver dans l'architecture avec un projet un peu transversal, un peu d'ailleurs, en venant un peu d'ailleurs. Donc tout ça, c'était pas mal, ça me donnait pas mal de force et de liberté au fond. Et je pense que c'était peut-être ça d'ailleurs, la question de la liberté et comment je pouvais moi fabriquer mes propres outils pour aller là où je voulais quoi.
Et en 2008, c'est le moment où naît le collectif Das Plateau. Donc, vous le fondez avec Maëlys Ricordo, qui est comédienne, Jacob Stombach, qui est auteur-compositeur, et Jacques Albert, qui est auteur et danseur. Donc, des personnalités aux talents très divers. Qu'est-ce qui vous rassemble alors? Est-ce que c'est justement le plateau qui donne ce nom au collectif?
Très vite, la question de la perception et de l'émotion physique ont été au centre de nos discussions. Je pense que c'est ça qui nous a d'abord mis d'accord, on va dire, de chercher une théâtralité qui n'était pas d'abord textuelle ou littéraire. Je pense que la question du texte est venue, en fait, dans un deuxième temps, juste un tout petit peu décalé, mais très très peu au fond, par l'écriture de Jacques, qui donc, lui, était danseur, vraiment, à ce moment-là, dansait beaucoup, était beaucoup travaillé par la question du mouvement, et qui s'est mis à écrire. Et c'est vrai qu'on s'est saisi de son écriture, presque par hasard, au fond, mais qu'on l'a plus lâché, quoi. Et donc là, on a commencé nos premières expérimentations sur des formats qui étaient donc déjà très plastiques, très abstraits, la question de l'abstraction. En fait, on voulait se détacher aussi de la question de la narration. C'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que je ne pouvais pas m'imaginer metteuse en scène. C'est que ça me faisait très bizarre de me dire, on va mettre en scène un texte. J'avais l'impression que le texte, il ne pouvait pas se mettre en scène puisque c'était un texte. Enfin, je ne comprenais pas très bien quelle relation trouver entre des arts, en fait, très différents. Donc, il nous fallait formuler la possibilité de ces relations-là, qui nous étaient très propres, je pense.
Et vous expérimentez très vite ce mixage finalement des sources, puisque Martine, spectacle créé en 2008, semble presque poser les bases d'un geste artistique et d'une grammaire scénique hybride. Martine, c'est une femme que l'on découvre dans l'intimité de son intérieur. On peut l'observer, c'est donc son regard sur les choses, c'est son quotidien, mais il y a aussi la violence du monde qu'on entend, qu'on comprend en écho. Il y a une présence sur le plateau, mais il y a aussi une vidéo, une sorte de grand plan séquence qui traverse donc toute cette création. Donc on est effectivement avec des langages artistiques qui doivent trouver plus des résonances que s'illustrer les uns les autres.
Oui, complètement. Et comme on le disait, d'ailleurs, ça vient, je pense, aussi de ce groupe et de nos disciplines, en fait, de formation, et qui sont pour chacun des disciplines qu'on aime beaucoup et qu'on avait envie de pousser très loin. Que ce soit la question, comme évidemment, de l'espace pour moi, des questions de regard, des questions visuelles, la musique, qui a un rôle tout de suite fondamental. Et très vite, on se dit, en fait, on pourrait faire des créations qui partent d'un morceau de musique, d'une œuvre musicale. Très vite, on se dit, ah ben tiens, cette création-là, ça va être plutôt un geste ou une lumière qui va l'initier. Il n'y avait pas de mode opératoire, en fait, à ce moment-là. On cherchait plutôt des créations qui mettaient en relation la question de l'abstraction et de la narration, qui mettaient en relation les sensations que peuvent procurer de la musique dans l'espace. Parce que c'est ça, quand même, aussi, le théâtre. C'est un espace dans lequel, en effet, les différents éléments, les différentes disciplines, les différents gestes artistiques peuvent vivre et trouver des relations, quoi. Donc, tout de suite, en effet, la notion de montage, la notion de mystère aussi. Je pense que Martine, vous citez cette création qui a très peu de gens en vue, était assez mystérieuse, assez très peu explicative, quoi, très, très, très silencieuse quelque part.
On est dans une logique beaucoup plus perceptive que narrative. Il y a là aussi un geste politique, puisqu'il ne s'agit pas de montrer le réel, mais plus de montrer la perception du réel, une façon dont finalement il est retravaillé, il est réinterprété en permanence par notre esprit, en fait, par la psyché humaine.
Complètement, et cela crée aussi, parce qu'il n'y a pas une perception évidemment, donc un rapport polyphonique, je pense, au spectacle. Si je regarde comme ça en arrière, je pense qu'il s'agissait déjà de faire exister sur scène ce qui est de l'ordre du réel, en effet, et ce qui est de l'ordre de sa perception, c'est sûr. Et que aujourd'hui, je pense très profondément que nos scènes travaillent cette question des fantômes, des spectres, de ce qui nous habite, de nos représentations, de nos chimères, de nos cauchemars, de nos rêves, de ce qui se passe, de tout ce qui se passe d'immatériel en nous, et de le mettre en relation avec le réel du monde.
À cette époque, dans les dossiers de présentation de vos spectacles, vous mettez très régulièrement une phrase de l'artiste italien Romeo Castellucci : le théâtre, ce n'est pas la réalité, c'est du réel contre la réalité. Pourquoi cette phrase ? Est-ce que justement, ça a été une influence que cet artiste fondateur de la fameuse Societas Raffaello Sanzio, qui a beaucoup travaillé justement sur un théâtre de la sensation ?
Ça a été vraiment très fondamental à ce moment-là, Castellucci. Pour moi, c'était très, très important de voir son travail, très important de voir comment il arrivait à construire des langages qui étaient en dehors du langage verbal littéraire, en fait. Et c'était ça, à ce moment-là, je pense qu'on cherchait, la question de la sensation, la question de la signification. Et la question du réel scénique, c'est-à-dire quand même, à ce moment-là, le théâtre, c'était de la présence réelle, quoi. C'était du réel, quoi, en effet.
Du réel avec beaucoup d'images, puisqu'il y a certains spectacles, je pense par exemple à Notre Printemps, qui sont aussi fondés sur la création d'un film, hein, et donc dans beaucoup de vos pièces, même la précédente Six Hour Pro, où on suit une sorte de traversée en voiture, à travers les campagnes, etc. Donc, il y a une très forte importance de l'image. D'ailleurs, c'est vous qui signez le film, donc vous êtes aussi réalisatrice. Mais du coup, dans ce collectif, comment ça se passe? Parce que chacun semble finalement avoir des places un peu distribuées. On va dire Jacques Albert à l'écriture, au mouvement, et vous plutôt à la mise en scène, Maëlys au jeu, Jacob Stenbach à la musique. Donc, comment ça se travaille à l'époque? C'est quoi le processus?
J'ai jamais été scénographe. J'ai travaillé pour l'être, mais l'endroit qui s'est... Enfin, évidemment que je travaillais à la question de l'espace et que c'était au cœur de ma pensée, mais en fait, tout de suite, c'est l'endroit de la mise en scène qui m'a vraiment plu, quoi. Et comme je le disais, on a commencé plutôt sur l'idée d'un théâtre hors du texte, qui acceptait le texte, mais de manière pas du tout de manière initiale. Il ne s'agissait pas de monter des textes. Sauf que de manière totalement contradictoire, Jacques Albert s'est mis à écrire. Et donc, on a commencé à monter ses textes parce qu'ils nous plaisaient, en fait. Tout simplement, ils nous émeuvaient, on les trouvait beaux. Et donc, on a commencé comme ça à travailler. Donc, il y a eu ce projet initial, Martine, que vous avez cité, mais très vite, c'était Zixor Pro, puis Le Bon Chemin, puis Dia de Mucho. Enfin, et à chaque fois, il travaillait, et il se dépêchait sans doute, j'en sais rien, de finir une autre pièce pour nous la mettre dans les mains avant qu'on ait fini le projet d'avant. Et puis, on était re-séduits. Et donc, on se disait, allez, on va la mettre en scène. Mais comme en même temps, au départ, on ne voulait pas tellement mettre en scène des textes, mais du coup, on cherchait des manières de mettre sur scène ces textes, mais pas en scène. Je sais pas,
donc,
quelque chose de ça.
Avec l'image, le cinéma, et vous avez presque fait un théâtre-cinéma à un moment.
Oui, c'est ça, exactement. Et du coup, on se disait, comment est-ce que la narration peut exister? Parce qu'en plus, Jacques Albert écrivait vraiment des narrations, vraiment des fictions. Par exemple, sur Notre Printemps, la réponse, ça a été en effet de se dire, toute la narration, en fait, c'était une nouvelle, Notre Printemps, tout départ, très belle nouvelle. Et on se disait, on va la transformer en film. Et donc, on l'a filmé. Et ce film a trouver sa place sur scène. Et je dirais que le spectacle était la résonance sur scène de cette histoire-là, qui était une histoire de deuil. Et donc, le spectacle s'est construit comme ça, par résonance, par écho d'un noyau narratif, on va dire, mais qui occupait, une quinzaine de minutes sur une heure et quart de spectacle.
Il y a eu, dès le départ, dans les spectacles de Das Plateau, cette façon de faire coexister finalement différentes strates de sens avec une écriture textuelle, visuelle, spatiale, avec aussi différentes façons de jouer, d'incarner à la fois au cinéma mais aussi sur scène. Alors dans le collectif, il y a une actrice, Maëlys Ricordo. Comment ça se travaille justement avec les comédiens? Qu'est-ce que ça vous a obligé finalement peut-être à inventer comme façon de diriger? Parce que la mise en scène, c'est la question de prendre en charge le sens, c'est la question aussi évidemment d'une vision globale, spatiale de l'œuvre, etc. Mais c'est aussi la direction d'acteurs et d'actrices.
Et bien ça a été pas à pas. Moi, je pense que j'étais assez timide en fait au départ sur cette question-là, de la direction des acteurs et des actrices. Je pense que je ne me sentais pas super légitime à cet endroit-là. Et petit à petit, ça a été une conquête, je dirais, qui s'est faite aussi au moment où on a rencontré l'écriture de Pauline Perrade. Donc, je dirais vraiment dans un deuxième temps, où je pense que j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que je pouvais travailler avec des acteurs et des actrices. Et notamment, en effet, un rapport de feuilletage, je crois, dans le jeu, où les acteurs et les actrices sont à la fois un ou des personnages, mais aussi peuvent en sortir, peuvent re-rentrer, peuvent occuper différents espaces, différents moments temporels, et que la mise en scène va pouvoir ouvrir des nouveaux espaces et des nouvelles temporalités, et de cette manière, montrer le texte dans ce qu'il est, comme des manières peut-être de prendre, par le jeu, dans le travail scénique, de pouvoir prendre soit du recul, soit s'avancer dans le texte, enfin de pouvoir travailler notre relation de spectateur au texte. Je crois qu'on cherche des choses comme ça, et que ça, on a pu le formuler, au fond, peut-être, quand on a commencé à travailler sur d'autres textes que ceux de Jacques, qui pourtant étaient tout à fait autonomes, et des textes tout à fait qui sont édités, etc., mais qui étaient peut-être tellement proches, peut-être je n'avais pas assez de distance vis-à-vis de ces textes pour pouvoir tout à fait comprendre ce que je pouvais en faire.
Alors, ce sont des textes qui sont souvent empreints de la présence de la mort, de la maladie. On parlait de notre printemps. C'est aussi un voyage temporel avec une femme qui se rappelle une période heureuse avec son mari qui a disparu. Donc, il y a dans ces thématiques quand même une présence forte de la mort, de la violence. Vous disiez que ces textes vous interpellaient. Porter ça sur scène, c'était ce qui faisait sens pour vous ?
Oui, je pense qu'il y a aussi, en tout cas dans mon parcours, dans la compagnie, petit à petit, une manière de se réapproprier, de s'approprier les sujets. Donc, je ne sais pas si c'était exactement les sujets qui m'importaient le plus, mais par contre, leurs émotions, leurs vibrations. Après, il y avait aussi d'ailleurs dans l'écriture de Jacques une dimension sociale, réaliste, naturaliste parfois, que je trouvais intéressante et qui quelque part me libérait moi au plateau. C'est-à-dire qu'on pouvait être très, très dans des rapports beaucoup plus abstraits, beaucoup plus physiques, beaucoup moins parlants, je ne sais pas comment le dire, beaucoup dans la fabrication du coup de l'espace et de la musique, du spectacle lui-même. Puisque là, il y avait déjà ces textes qui prenaient en charge une dimension de sens que quelque part je pouvais m'appuyer dessus beaucoup.
Avec une peinture sociale parfois dure, si on prend Six Hour Pro, donc vous avez créé en 2010, on est dans la campagne, on est dans des maisons assez isolées, on est dans des gens qui se tuent. Il y a le suicide, il y a le chien du voisin. On sent aussi une vision de ces solitudes, presque on dirait imprégnées de froidure, de pluie, de tristesse, de misère affective. Il y a quelque chose aussi très fort comme ça qui est dépeint par les spectacles de Das Plateau, qui dévoile finalement une réalité à la fois concrète, et en arrière-plan, tout le psychisme qui va accompagner finalement ces personnages qui ne sont pas aussi simples que ça.
C'est tout à fait vrai. Et je pense d'ailleurs que j'ai l'impression qu'on a toujours, que Das Plateau a toujours fait une sorte de pont entre les questions, comme je disais, sociales, d'actualité. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait un théâtre purement expérimental ou, comment dire, qui était juste une recherche formelle.
Je pense que... Pas de l'art pour l'art, quoi.
Oui, alors que pourtant, oui pour l'art, quoi. Enfin, c'est-à-dire que je pense qu'on expérimentait beaucoup, que les formes, les rapports au spectacle, oui, que la question de la forme était hyper importante pour nous, des formes, quoi. Mais ça n'a jamais été sans relation directe au monde, quoi. Et donc, c'est vrai que cette époque-là, donc on a quand même monté pas mal de textes de Jacques, au moins 4, ou je ne sais plus exactement, il faudrait les recompter. Mais c'est sûr que les sujets, c'était lui qui les portait. Hein, c'était vraiment son écriture et ses textes qui... on ne discutait pas des sujets avant qu'il écrive. Par contre, il n'y avait aucune évidence à ce qu'on monte ses textes. Mais voilà, comme je le disais, ça nous rattrapait à chaque fois. Je pense que les sujets lui appartenaient aussi très fort à ce moment-là et que ça a été important pour moi, je pourrais dire pour nous, Maëlys et moi, de choisir un petit peu plus nos sujets à un moment.
Alors, le moment charnière, on pourrait le voir en 2016. Vous montez Il faut beaucoup aimer les hommes, d'après le roman de Marie Darrieussecq. Donc, c'est un roman sur un tout autre sujet, puisque là, il est question d'un amour brûlant, déchirant entre deux êtres qui, finalement, vont avoir quand même beaucoup de mal à se retrouver. Bon, ça, c'est assez courant dans les histoires d'amour. Mais il est aussi question de racisme, les questions aussi du féminin, du masculin, de la façon dont ça se frotte. C'est aussi des visions du monde différente et aussi une dimension politique parce que au loin quand même s'invite l'histoire des peuples parce que ces deux êtres qui voudraient bien s'aimer sont aussi eux écartelés par des conditions historiques et des cultures différentes. Hein.
Tout à fait, oui, elle est blanche, il est noir, il est camerounais, elle est française. Et donc, à travers leur histoire d'amour, c'est aussi évidemment la relation entre deux pays, deux peuples qui se joue, quoi. En fait, la rencontre avec l'écriture de Marie Darrieussecq s'est faite d'abord par Clève. Mais justement, on venait de monter Cours les prairies de Jacques et finalement qui traitait aussi donc de l'adolescence, de cet âge-là, vraiment de la fleur de l'âge. Ça nous semblait bizarre et répétitif, en fait. Et on a fait une sorte de pari comme ça, parce qu'on avait beaucoup aimé Clève. Et on s'est dit, on savait qu'il y avait un nouveau roman de Marie Dariussec qui arrivait. On s'est dit, ah bah, on va monter le nouveau, quoi. Et puis on l'a acheté, on l'a lu, et on s'est dit, bah oui.
Et c'est aussi le début d'un cycle, ou en tout cas d'une nouvelle période du collectif d'As Plateau, où vous allez monter des textes non plus de Jacques Albert, mais d'autres, des textes de femmes, souvent, et aussi souvent qui tournent autour de la figure du féminin, parce qu'on parle donc de cette pièce « Il faut beaucoup aimer les hommes », mais en 2018, vous allez monter « Bois impériaux » de Pauline Perrade. Là, c'est l'histoire d'une femme qui accompagne son frère, on est dans la voiture, c'est une sorte de thriller nocturne, une road movie où on ne sait pas à travers la forêt, une dimension énigmatique très forte. Et petit à petit, on devine par des bribes de vie que c'est compliqué parce que elle a une activité rémunératrice comme call girl au téléphone. Lui semble très agité et prise avec ses folies. Et c'est toute cette relation et aussi cet être féminin et ce pouvoir être féminin au sein de la famille, qui est posé. Donc ça pose aussi dans votre travail une ligne thématique forte.
Il faut beaucoup aimer les hommes. D'un coup, c'était une héroïne, enfin c'était une femme qui était le personnage central, pas un homme. Je pouvais comprendre ce personnage, je pouvais comprendre l'écriture plus globalement, je pouvais rentrer en relation très différemment avec le texte, quoi. Et ça a été très important pour moi, pour la compagnie, je pense. Qui était aussi lié à un désir d'ouvrir notre travail plus. En fait, depuis toujours, on avait l'impression qu'on faisait un travail très accessible. Et bon, le métier nous renvoyait beaucoup, peut-être parce qu'on avait une recherche formelle assez radicale, comme on disait à l'époque. Je ne sais pas, qu'il n'était pas tant. Et moi, je trouvais ça pas vrai du tout. Donc voilà, donc Il faut beaucoup aimer les hommes était aussi pris dans ce désir d'ouverture, d'annoncer aussi cette ouverture. Et puis voilà, c'est le moment aussi où l'équipe s'est étoffée. On a eu un petit peu plus d'argent qu'avant, parce qu'on avait vraiment très peu d'argent. On a aussi rencontré à ce moment-là James Brandili, qui est scénographe et avec qui on a engagé un travail qui perdure aujourd'hui entre une metteuse en scène architecte et un scénographe et puis bien sûr une comédienne et bien sûr le reste de l'équipe, etc. Enfin, Maëlys qui est comédienne, mais qui conçoit les spectacles avec moi depuis le début. Et ce dialogue-là était très important aussi. Je pense qu'il a permis aussi d'exprimer des choses que j'imaginais sans pouvoir les réaliser, au fond.
Parce que dans Bois impériaux, la scénographie est en effet très complexe. On parlait de différentes strates de réalité, cette façon aussi de montrer un réel diffracté avec différentes sensations de réel qui peuvent être ressenties en même temps. Et ça vous le travaillez aussi grâce à l'espace, avec l'écriture aussi de Pauline Perrade qui s'y prête particulièrement. Mais il y a aussi ce travail très fort sur l'espace que vous entamez
sur Bois impériaux.
Sur Bois impériaux.
C'était une commande, en fait, que Mathieu Berthelet nous a fait. Il nous a dit, proposer de mettre en scène Bois impériaux. Et c'est vrai que la rencontre avec cette écriture a affirmé quelque chose dans notre travail, je pense, très fortement. Bon, d'abord, on retrouvait une écriture théâtrale, ce qui était quelque part miraculeux.
Oui, il y a des dialogues.
Quelque part, c'était tellement... Ça semblait aussi beaucoup plus facile d'un coup que l'écriture au plateau. Hein. Mais déjà, il y avait une joie, je pourrais dire, de... Ah ben, ça marche tout de suite, quoi. Et par ailleurs, dans l'écriture de Pauline, il y avait une relation à la forme et au fragment qui a été très inspirante pour moi, je dirais. Je me suis tout de suite dit, y compris dans Bois impériaux ou dans la graphie même, dans l'occupation de l'espace de la page, elle écrit des informations. Donc, ils sont dans une voiture, ils traversent la France. Irina, cette jeune femme, emmène son frère dans un hôpital psychiatrique. Et il va se suicider à ses côtés pendant cette nuit froide, quoi. Et où là, on voit, donc, quand je disais, Pauline écrit aussi la température extérieure, la vitesse, comme une espèce de réaction, comme une manière de nous transmettre des états intérieurs. Donc, il y a aussi une relation, d'ailleurs, entre la réalité pragmatique et l'état, le monde psychique dans lequel les personnages sont et dans lequel nous sommes aussi, peut-être, d'ailleurs. Et voilà, et ce rapport aux fragments, très vite, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a entre les fragments, alors ? Puisque nous, au théâtre, on n'a pas d'accès aux fragments, puisqu'on est dans un temps continu. Donc, qu'est-ce que c'est, finalement ? Qu'est-ce que la metteuse en scène doit faire de ces fragments, quoi, de ce qu'il y a entre ? Et c'est vrai que là, il y a eu cette idée qui est apparue à un moment de se dire, mais au fond... Peut-être qu'il faut prendre la pièce à la fin, quoi. Et je me disais, mais elle a perdu son frère, en fait, et elle rentre chez elle. Alors, j'avais vécu moi-même un deuil, je venais de vivre un deuil important. Mais je me disais, mais ça, peut-être c'est important à raconter ce qui se passe quand la réalité du monde vient de perdre un être, quoi. Et que c'est la même, elle ressemble exactement, mais il y a un être en moins. Et pourtant, on a encore la trace de cette personne qui existait juste avant. Et j'ai eu envie de travailler ça. C'était vraiment quelque chose de crucial pour moi, cette idée-là. Et donc, on a travaillé comme ça. Donc, le début du spectacle, c'est Irina qui rentre chez elle et on a projeté l'intégralité de la pièce de Pauline en flashback, en fait. Et donc, ça a été, je pense, un des premiers gestes de metteuse en scène que j'ai fait dans mon histoire artistique, quoi.
Cet état émotionnel que vous décrivez, cette attention à la perception, à mettre finalement le spectateur dans des états de sensation, c'est aussi pouvoir communiquer avec lui par un bain de sensations, plus que uniquement par l'intellect, et donc d'établir une relation très singulière, très forte avec lui pour l'embarquer finalement.
Oui, j'ai l'impression que le fait, par exemple, de dire on projette la pièce qui devient du passé, ben, moi, ça m'ouvrait des possibilités esthétiques énormes. Et du coup, le frère, quand il parle pas là, il parle, c'est un fantôme, en fait.
Cette
il
question parle des dans fantômes vous habite.
Oui, vraiment. Je pense, vraiment, j'ai l'impression que la scène, enfin, je comprenais pas ça d'ailleurs, quand on disait oui, la scène, c'est le lieu des fantômes. J'avais l'impression que c'était des phrases toutes faites quand j'étais plus jeune. Mais non, enfin, la question de la scène qui est quand même le fait qu'il y ait des vrais acteurs, on retrouve la réalité et qu'en même temps, ce sont des êtres chimériques. Et la possibilité de les mettre réellement en relation avec des constructions immatérielles, le fait que la scène puisse montrer avec autant d'importance les choses immatérielles, les choses de l'esprit et les choses réelles, rendant les choses réelles des choses de l'esprit, rendant les choses immatérielles des choses réelles, etc. Oui, je sais pas, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un endroit de travail.
Ça veut dire que la scène, c'est un endroit de réactivation, comme on dit en anglais, reenactment, qui finalement va rejouer avec les traumas, avec les fantômes, etc., mais aussi avec cet enjeu de résilience, finalement, qui va pouvoir s'accomplir grâce à ce rituel, à cette retraversée que vous nous proposez en tant que spectateur et spectatrice.
C'est beau de vous entendre faire ce lien comme ça, mais c'est vrai que dans les derniers spectacles, d'ailleurs, qu'on a montés, que ce soit Point.
De Pauline Perrade en 2021, où là, il est vraiment question d'une femme qui revit le trauma de son viol.
Qui le revit, mais surtout qui peut le raconter, qui le retraverse et qui peut en faire mémoire, donc en faire le récit. Pareil, la question de la mémoire et du récit étant quand même là aussi extrêmement proche, au fond, et le lieu du théâtre aussi. Et donc, en faisant mémoire, en faisant récit, il y a possibilité de récit commun et donc d'avancer, quoi, de se parler, d'avancer. Point, c'est vraiment l'illustration, en effet, de cette recherche-là. Mais c'est vrai que Et Point et Le Petit Chaperon Rouge, qui sont nos deux dernières créations, se terminent bien.
Et d'ailleurs, Le Petit Chaperon Rouge que vous avez créé en 2022, vous l'avez créé à partir de la version des Frères Grimm et non pas de celle de Perrault, parce que justement, celle des Frères Grimm se termine bien. Alors, racontez-nous.
Ça faisait un moment que je me disais, mais tiens, on devrait faire... on devrait faire un spectacle pour les enfants parce que notre écriture scénique, le rapport à la musique, le rapport visuel pouvait, on se disait, ça peut, pourrait bien parler aussi aux enfants. Puis c'est Maëlys Ricordo qui a eu l'idée du Petit Chaperon Rouge et du coup on est en plein confinement, donc on était avec nos enfants. Et donc je vais lire le Petit Chaperon Rouge à ma fille et je lis la version de Perrault qui est très, très commune en France.
Pour résumer, en fait ça se finit pas super bien parce que la grand-mère et le Petit Chaperon Rouge sont bouffés tout crus.
Ouais, et sont voilà, abandonnés dans le noir du ventre animal pour la nuit des temps.
Moralité, ne pas se promener seul, surtout quand on est une femme. Et alors encore plus en pleine forêt, donc
et puis surtout
restez
ne pas
chez
parler
vous.
Aux loups. Et puis il y a une inversion très singulière de la culpabilité, puisque c'est alors évidemment c'était des contes initiatiques, c'était des contes pour protéger les jeunes filles, les jeunes femmes,
mais c'est quand même la faute du petit chaperon rouge.
En lisant ça, moi le livre me tombe des mains et je me dis, mais tiens, quand même, allons voir la version des frères Grimm. Qui est non, ça ne se termine pas sur la mort du petit chaperon rouge et de la grand-mère, mais il y a un chasseur qui passe et qui les sauve du ventre de l'animal, une figure d'homme donc plutôt positive, assez drôle aussi. Mais ça continue, il y a une autre fin en fait, un espèce d'ajout comme ça étrange, où il est dit que la petite fille, un autre jour, retraverse la forêt, re-rencontre un loup, et forte de cette première expérience, fonce en fait chez sa grand-mère, et toutes les deux fomentent un plan,
un
piège à loup, qui est quand même de sortir de l'eau de saucisse dans une cuve, et donc elles sortent ça appâte le loup qui monte sur le toit, etc. Elles s'enferment dans la maison en attendant que le piège agisse, et le loup se retrouve noyé dans cette cuve, quoi. Et ça se termine sur ces mots. Le petit chaperon rouge rentra joyeusement chez elle et personne ne lui fit plus jamais de mal. Avec ce jamais qui est extraordinaire, qui est vraiment la question du conte, quoi. Donc c'est sûr que là, moi j'avais l'impression qu'on tenait d'abord aussi une fin inconnue, en fait. Je me disais, mais qu'est-ce qui justifie que cette fin ait été tronquée à ce point de notre connaissance collective ? Enfin, c'était quand même sidérant. Non seulement c'était de la faute du petit chaperon rouge, mais c'était aussi, il y avait toute une idée d'une petite fille aguicheuse qui se mettait dans le lit du loup. Enfin, même Bruno Bettelheim dit qu'il est tombé amoureux du petit chaperon rouge, quoi. Alors pour un psychanalyste, enfin moi je sais pas, mais c'est quand même une enfant qui a 5-6 ans. Donc, plonger là-dedans aujourd'hui, c'était quelque chose, quoi, de se dire, oula, mais il y a quelque chose quand même à sortir d'une gangue masculine, d'un regard quand même, d'une emprise du regard masculin. Peut-être que si on desserre un tout petit peu les taux, on peut voir les choses autrement, quoi. Là, on s'est dit, oui, il y a quelque chose à raconter, quoi. Et qui est positif, en effet.
Et vous en faites une expérience sensorielle à hauteur d'enfant, puisque en fait c'est accessible à partir de 5 ans. Justement, à hauteur d'enfant, parce que autant les spectacles dont nous avons parlé, tels que Point, que vous avez créé juste avant, qui va aussi travailler sur une diffraction du réel, qui va travailler sur cette façon dont finalement on travaille aussi sur les dissociations de la personnalité, etc., etc. Là, vous utilisez parfois des outils plastiques similaires, c'est-à-dire ces jeux de miroirs sans teint qui permettent d'avoir des présences insolites, etc. Mais alors dans un tout autre démarche esthétique. Et là, c'est effectivement à hauteur d'enfant. Et je pense que tous les enfants sont absolument réjouis quand ils voient embarquer par le spectacle.
Ouais, ça se passe bien. Mais c'est très complexe, les contes. Et puis, c'est d'une densité... C'est très, très bref. Et en même temps, plus on travaille, plus c'est intense de signification, de comment le conte se construit, où est-ce que ça va chercher. Donc, il y a aussi la question de l'histoire qui est apparue, de l'histoire, de la grande histoire, c'est-à-dire du passé aussi, de nos passés, de notre passé. Comment les histoires qu'on se raconte sont aussi la trace, le palimpseste de beaucoup de textes, de beaucoup de... Ça a été vraiment une création passionnante, complexe à faire. Mais parce que le conte est très complexe, je ne voulais rien simplifier, en fait. Et ça a été aussi pas une bataille, mais il y avait beaucoup d'injonctions qui nous étaient faites dans le travail. Il ne faut pas que ce soit nana, il ne faut pas faire des noirs parce qu'ils vont avoir peur, il ne faut pas que ce soit trop long parce que si, il ne faut pas que ça... Et donc, il fallait arriver à fermer un peu les écoutilles pour arriver à mettre en scène ce conte tel que je pensais qu'il fallait le mettre en scène, c'est-à-dire dans sa complexité, dans tout ce qu'il travaille Enfin, moi, pour moi, à un moment, de toute façon, si on lisait le conte des frères Grimm aux enfants, si c'est possible, s'ils arrivent à le lire, bah, il n'y a aucune raison qu'ils n'accèdent pas au spectacle. Donc,
sauf que là, vous le faites en plus avec une richesse iconographique absolument incroyable, puisqu'il y a des projections qui vont changer à chaque séquence, et qu'elles sont aussi très porteuses de sens. Donc ça aussi, hein, c'est un élément qui est très accessible aux enfants, parce que c'est un peu comme on lit un livre d'images. Il y a aussi la musique qui est extrêmement importante, ce jeu des comédiens qui sont à la fois au bord de plateau, parfois sur le plateau, qui parlent pour les personnages qui sont dans le tableau. Donc il y a tous ces jeux-là aussi, ouais, qui font que ça circule beaucoup dans le, ce qui est proposé aux enfants et qui est... Bah, oui, leur attention est sans cesse attirée d'un fil, d'un endroit à l'autre. Et ça crée des cheminements certainement voilà, intéressants. En tout cas, ils rentrent dans l'histoire.
C'est sûr, c'est ce que je disais. C'est que la densité de signification, vraiment de chaque mot, de chaque phrase, était très complexe en fait à rendre. Et c'était ça qui était difficile dans la fabrication du spectacle. On disait d'ailleurs, c'est un spectacle à la pince à épiler. On avait l'impression d'avoir des trop gros doigts pour le fabriquer, et c'était vraiment le casse-tête d'arriver à rendre la perception de chaque strate signifiante, j'ai envie de dire. Quand la petite fille, elle va dans la forêt, quand le loup lui dit bah, « fais ce détour, comme ça, il va pouvoir aller manger la grand-mère », à un moment, elle se perd dans la forêt et elle se perd dans les fleurs. Et c'est un moment qui est à la fois un émoi artistique, sensuel. Il est dit d'ailleurs, le petit chaperon rouge ouvre les yeux. Ouvre les yeux, et c'est le loup qui lui fait ouvrir les yeux. Et c'est terrible en même temps. Qu'est-ce que ça raconte ? Moi, je ne voulais pas simplifier les choses, en fait, et dire bah, à la fois le loup, c'est un agresseur aujourd'hui. Moi, dans le spectacle, c'est clairement un agresseur familier, probablement, en partie du moins, enfin, qui se rend familier, qui se... Ça parle aussi de sujets très graves, et je pense que c'est important que les enfants puissent avoir des représentations de choses qui peut leur arriver, qui peut arriver à des amis, à eux. Et en même temps, rien n'est simple. Et voilà. Et donc, parfois, les loups sont gentils. Et parfois, c'est les loups gentils qui sont très, très, très méchants. Et par exemple, pouvoir raconter ça, c'est pas simple, en fait, sur un plateau, sans faire des grands discours.
Et cette figure du féminin, elle continue de vous travailler encore tout récemment à travers un autre processus de travail, alors là qui est très différent hein, de ce que vous pratiquez d'habitude. Vous avez toute une série autour de la figure de Pénélope en allant dans les quartiers à Montreuil. Est-ce que je rapproche ça de vos premières années où vous disiez sortir de Paris, aller voir les gens et là parler de la question du féminin, c'est pas forcément évident de parler de cette figure du féminin, de porter ces paroles-là. Ça relève aussi de cette même engagement à la fois esthétique, artistique, politique, sociale.
Oui, complètement, vraiment. Pénélope, c'est un projet qui est né quand on était en résidence dans une ville en région parisienne qui s'appelle Les Ulysses. Et un jour, on s'est dit, bah, tiens, ce serait bien de faire un projet qui sort du théâtre, comme on dit, quoi, des projets de territoire, mais qui permettent de rencontrer d'autres publics, d'aller voir d'autres publics. Puis en fait, c'est devenu un projet qu'on aime énormément, donc vraiment coporté par Maïlys, qui le joue également, et par moi, qui part d'entretiens de femmes de chaque territoire sur lequel donc, on fait des versions, en fait, dans différentes villes. On a fait une dizaine de versions, que ce soit à Marseille, à Montreuil, à Oyonnax, à Nanterre, à Vitry, etc. Et ces entretiens qui abordent la manière, la question de la liberté et de comment chaque femme, dans sa singularité, va parvenir à tisser petit à petit des espaces de liberté. Et qu'est-ce que ces espaces lui coûtent aussi? Comment est-ce que, dans toute sa difficulté aussi, mais en même temps dans toute sa nécessité puissante, la liberté est travaillée par chaque femme? Voilà, ces entretiens, on les réduit, on va dire, puisqu'on échange avec les femmes pendant une heure environ. Et Maïlys interprète chacune de ces figures, chacune de ces femmes, en faisant un travail de jeu qui est assez proche, en fait, des expériences qu'on mène sur les scènes. Elle passe d'une figure à l'autre tout en étant elle-même dans une relation au spectateur à la fois de présence très 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 simple, d'adresse, comme si c'était elle, quoi. Enfin, c'est elle, et en même temps dans un travail d'incarnation très intense, puisqu'elle rejoue ces femmes qu'elle a en fait dans l'oreillette, donc elle les joue très très précisément. Il y a ce qu'elles disent, mais il y a aussi comment elles le disent, et c'est ça vraiment notre travail pour le coup de fabrication du spectacle et de montage, puisque c'est aussi un travail de montage de ces paroles, d'arriver à rendre par la manière dont elles disent les choses, leur singularité spécifique et comment ces singularités-là, les unes avec les autres, montrent quelque chose quand même de très général aussi.
On est vraiment dans la réactivation et alors c'est, je pense, la parfaite illustration de ce principe. Le théâtre, ce n'est pas la réalité, c'est le réel contre la réalité, parce que c'est par ce décalage que vous avez arrivé à finalement à partager cette universelle à la fois tout à fait singulier et intime, mais cette universelle qui est portée par la façon dont chacun éprouve la liberté ou son manque.
Ouais, tout à fait, ouais, complètement. Non, mais cette question aussi de la, je disais le tout petit et le très grand, enfin. Je pense même dans le petit chaperon rouge, en fait, on est, c'est une toute petite histoire au fond, et c'était très important aussi que, enfin, c'est une toute petite histoire très très importante. Finalement, se lire des histoires, la question de la transmission, qu'est-ce qu'on se transmet quand on lit des histoires? Et donc à la fois beaucoup 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 de choses depuis des temps très anciens, quoi, et en même temps juste de l'amour aussi. Et voilà, et cet aller-retour entre les choses, voilà, très très grandes, très importantes, sociales, mondiales, humaines, et en même temps le commun, le banal, ce qu'on vit tous en fait. Enfin, comment tout ça se loge les uns dans les autres, quoi. Et il y a dans Pénélope quelque chose comme ça, d'essayer de faire joindre le détail de chacune, le détail absurde, la fille qui, je sais pas, qui va oublier tel truc systématiquement, enfin des détails ou des répétitions de mots par exemple, des petits tics de langage comme on pourrait dire, enfin comment tout ça nous éclaire en fait vers de la compréhension qui est beaucoup plus grande et vaste et partageable que ce détail là, quoi. Et en même temps, ce détail, il est tellement beau du coup.
Et c'est sans doute comme ça que le théâtre nous relie à l'humanité, au fond, et à notre humanité.
C'est ça.
Merci beaucoup, Céleste Germe.
Merci beaucoup à vous.